Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Grand Bien Vous Fasse. Grand Bien Vous Fasse, c'est la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Alors que débute ce matin la semaine du cerveau, zoom sur les premiers signes de la maladie d'Alzheimer, qui touche en France plus d'un million de personnes. La maladie d'Alzheimer effraie la plupart d'entre nous. Nous avons tous en tête l'image d'une personne grabataire, atteinte de démence et qui perd la mémoire. Nous préciserons ce matin le tableau clinique d'une maladie qui impacte l'entourage, souvent démuni face à cette pathologie neurodégénérative. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Comment détecter les premiers signes visibles d'une maladie qui avance masquée pendant 10 ou 20 ans? Quels sont les traitements pour limiter sa progression? Est-il possible de prévenir la maladie d'Alzheimer dès l'âge de 30 ou 40 ans? Peut-on retarder l'apparition des premiers troubles? Et puis nous verrons quel rôle peuvent jouer les proches quand la maladie apparaît. Nous attendons vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Merci pour vos nombreux appels la semaine dernière. Ce matin, c'est Clarisse et Ulysse qui attendent vos coups de fil. Et puis, dans quelques instants, vous retrouverez la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice qui s'intéresse aux petites pertes de mémoire quotidiennes.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
J'oublie des choses depuis quelque temps. Des mots, des noms, c'est assez agaçant. Et l'autre jour, je me suis complètement perdue en faisant mon jogging.
Bon, je n'ai rien vu d'anormal sur votre IRM. Ni maladie cérébrovasculaire, ni symptômes d'AVC, ni masse cancéreuse.
Dis ça, Louis.
Ce qui m'inquiète, ce sont les tests de mémoire que je vous ai envoyés faire. Vous souffrez de troubles mnésiques épisodiques sans commune mesure avec votre âge. Et il y a des signes d'altération de vos fonctions cérébrales. Alors, je préconise de faire un PET scan.
Mais qu'est-ce que vous comptez trouver particulièrement?
Eh bien, j'aimerais savoir si les résultats seraient compatibles avec la maladie d'Alzheimer. Cela arrive rarement chez quelqu'un d'aussi jeune que vous. Et on ne peut pas nier que vous répondez aux critères.
Un extrait du film Still Alice avec Julianne Moore en 2014. Avec nous pour évoquer les premiers signes de la maladie d'Alzheimer, trois invités. Bonjour Stéphane Eppelbaum.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour Judith Mollard.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, experte auprès de l'association France Alzheimer. Bonjour Benoît Dutertre.
Bonjour.
Vous êtes producteur de l'émission Étonnez-moi Benoît sur France Musique. Vous êtes écrivain et dans votre avant-dernier ouvrage, Livre pour adultes chez Gallimard, vous évoquez la maladie d'Alzheimer qui a frappé votre mère et qui fut, votre mère, la petite fille du dernier président de la 4ème République, René Coty. Docteur Stéphane Eppelbaum, question rituelle dans cette émission. Avez-vous déjà travaillé ou travaillez-vous actuellement pour l'industrie pharmaceutique?
Alors mes conflits d'intérêts sont d'une part d'avoir été financé pour un congrès par le laboratoire Novartis, deuxièmement d'avoir participé à deux réunions de conseil pour les laboratoires GE Healthcare et pour le laboratoire Lilly, et également d'avoir été investigateur principal d'une étude sponsorisée par les laboratoires Lilly.
Merci pour votre transparence, docteur Stéphane Eppelbaum. Alors de façon très pédagogique, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Une maladie découverte par Alois Alzheimer en 1906, c'est une maladie dite neurodégénérative.
Tout à fait. Donc, on peut dire découverte ou plutôt mise en avant, parce que cette maladie existait déjà bien avant qu'Alois Alzheimer identifie les lésions qui correspondent aux troubles neurologiques de la maladie. On peut répondre à votre question de deux façons. Sur le plan biologique, c'est l'accumulation de deux types de lésions dans le cerveau de personnes malades. Des lésions qu'on appelle amyloïdes et des lésions liées à l'accumulation d'une autre protéine qui s'appelle la protéine tau. Et sur le plan des symptômes, puisque c'est ça que l'on voit le plus, c'est une maladie dégénérative donc qui évolue progressivement sur plusieurs années, voire décennies, et qui va altérer en priorité la mémoire, comme vous disiez, la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des événements récents de la vie, par exemple ce que l'on a mangé la veille au soir, et puis qui va altérer également les autres grandes fonctions cognitives,
par
notamment
exemple,
le langage, la gestuelle.
Le raisonnement?
Le raisonnement également.
Benoît Dutertre, de quelle façon vous vous êtes rendu compte que votre mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer? Quels ont été les premiers signes visibles?
Alors, je me rappelle très bien précisément le jour où je me suis dit c'est bizarre. C'était à la fin de l'été, j'avais pas vu mes parents depuis quelque temps et il y avait une réunion de famille, on s'est retrouvés. Ma mère était très contente de me voir, mais sa joie avait quelque chose d'un peu excessif, d'un peu exalté, qui n'était pas tout à fait habituel. Elle parlait trop, elle était trop contente, elle avait un comportement qui dépassait ses limites fréquentes. C'était plus ça que la question de la perte de mémoire qui m'a tout de suite frappé. Je me suis dit, elle n'est pas tout à fait dans son état normal, mais elle était euphorique en même temps. Et puis après, après sont apparus très très vite au fil du temps, les étourderies, les oublis, etc.
Mais
etc.
Au début, sa maladie ne vous a pas trop effrayé ?
Non, parce que d'abord, on savait pas du tout au début, vous savez, c'était une femme de 72 ans, on pensait pas du tout à la maladie d'Alzheimer. Elle était un petit peu étourdie de nature, et puis elle était d'une nature assez joyeuse et légère, donc elle mettait ça voilà sur le compte de son caractère, de sa façon d'oublier les choses. Elle en riait elle-même, et il a fallu vraiment que les choses se précisent, s'aggravent, pour qu'on commence à penser que ça pouvait être quelque chose de grave. Mais comme en plus, ma mère, qui était elle-même infirmière de formation, qui connaissait assez bien ces choses-là, peut-être se doutait-elle de quelque chose. En tout cas, elle ne voulait pas voir de médecin, elle ne voulait pas de diagnostic, parce que je pense que cette idée lui était trop effrayante. Et donc, voilà, la chose a été mise de côté, même si nous, on s'apercevait que ça se dégradait peu à peu et qu'elle mettait toujours ça sur le compte de sa légèreté. Voilà.
Judith Mollard.
Oui, en effet, hein, c'est vrai que deux choses hein, par rapport à ce que vous venez de dire. D'une part, on voit comme très souvent la personne va mettre en place des stratégies pour faire face, pour ne pas montrer à son entourage hein, les difficultés qu'elle rencontre. Et puis, chez l'entourage, on voit bien qu'un jour, il y a quelque chose du comportement, de l'attitude, qui alerte, hein, qui ne rentre plus dans ce qu'on connaissait de la personne et qui va éventuellement engager donc l'entourage à communiquer avec la personne et l'encourager à faire éventuellement une démarche diagnostique.
Docteur Eppelbaum.
Et moi, je voudrais commenter aussi sur un point très important. Vous dites que votre mère, peut-être, avait une conscience partielle des troubles. En tout cas, elle masquait beaucoup. C'est vrai que ça fait partie des signes principaux de la maladie. C'est un symptôme qu'on appelle l'anosognosie. Qui correspond finalement à une difficulté à repérer soi-même ses propres troubles, à s'auto-analyser, si vous voulez. C'est ce qu'on pourrait dire, c'est du registre de la métacognition, c'est-à-dire à savoir interpréter nos propres pensées. Et donc, ce trouble est très gênant, puisqu'il va effectivement retarder le moment où le diagnostic va être fait, notamment parce que les proches rushing souvent à insister à l'encontre de la personne malade.
Mais là, en plus, il s'agissait d'un refus farouche, obstiné, d'aller voir un médecin, parce que je pense qu'elle ne voulait pas entendre parler de ça, et voilà.
C'était du
il n'en était
de
même
du
pas
déni.
Question, ça aurait été une violence que de la conduire chez le docteur.
C'était de l'ordre du déni, Benoît Duterte.
Oui, c'est de l'ordre du déni, parce qu'au même moment, je me rappelle très bien dans cette période. Alors, en plus, je dis, elle avait travaillé même longtemps à la bibliothèque de l'école d'infirmières, donc elle lisait beaucoup de choses. Et au même moment, un jour, elle m'a tenu un discours genre la maladie d'Alzheimer, ça n'existe pas, ce sont que des gens dont on s'occupe pas assez, qui sont seuls, etc., qui sont frappés. Donc, il y avait effectivement une forme de déni.
Bonjour, Aline Perraudin.
Bonjour, Aline.
Directrice de Santé Magazine. Alors, vous évoquerez tout à l'heure l'un des moyens de freiner un peu l'apparition des troubles de la maladie.
Oui, ben l'exercice physique, comme beaucoup d'autres choses, hein, un mode de vie plus sain qui pourrait contribuer à retarder l'apparition des symptômes. Et c'est aussi très important parce que c'est une piste qui montre qu'on peut agir sur la maladie.
À tout à l'heure, Aline Perraudin. Nous attendons toutes vos questions et témoignages sur les premiers signes de la maladie d'Alzheimer par courriel, grandbienvousfasse@radiofrance.com et au standard de France Inter, 01 45 24 7000. En attendant, c'est l'heure de la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Alors ce matin, vous vous intéressez à tous ces petits oublis de la vie quotidienne.
L'expression « gelé sur le bout de la langue » ne veut pas dire être gelé du bout de la langue, mais être sur le point de trouver le bon mot pour exprimer ce qu'on veut dire.
C'est gelé le mot que je cherche.
Gelé par remet.
Extrait donc du dessin animé Spirou et Fantasio pour commencer la semaine tout en légèreté. Donc autour effectivement de cette expression, par exemple, je l'ai sur le bout de la langue, qui renvoie à cette situation très étrange et où l'on est incapable de répondre ou de retrouver un mot ou une réponse alors même qu'on sait qu'on le connaît. Situation paradoxale donc, puisque l'on sait quelque chose que l'on ne sait pas retrouver. On a conscience de le savoir sans pour autant être capable de le communiquer. Alors ça énerve, hein, ça agace, on arrête tout ce qu'on fait, on cherche, on sait que c'est un verbe, on sait qu'il finit en « ir » ou alors en « dre », qu'il a trois syllabes, et quand les autres font des suggestions, on est même capable de dire que non, ça n'est pas ça.
Bref, on sait sans savoir.
Voilà, exactement. C'est une situation qui intéresse d'ailleurs les chercheurs en psychologie, hein, spécialistes de la mémoire. Ils appellent ça l'effet TOT, parce que, enfin, je parle sous le contrôle de ma voisine. Parce que
et du neurologue.
Voilà, parce qu'en anglais, sur le bout de la langue, ça se dit tip of the tongue. Mais ça intéresse aussi le prof de philo, parce que dire que l'on sait sans savoir, bah, c'est évidemment poser le problème du savoir que nous donne notre mémoire. Parce que savoir, c'est savoir que l'on sait. La connaissance n'est jamais réelle sans la conscience que l'on sait ce que l'on sait. Mémoire et conscience enferment, en fait, marchent ensemble. Souvenez-vous, Ali de Boileau, voilà, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. La connaissance se caractérise par la capacité d'installer une continuité aisée entre la pensée, ce qui se conçoit, le langage, les mots pour le dire, et cette aisance-là, elle dépend donc de notre mémoire.
Sauf que Thibault, la mémoire, on ne la maîtrise pas vraiment.
Oui, c'est vrai, c'est l'autre paradoxe de la mémoire, hein. C'est elle qui nous permet de conserver ce que l'on sait, de le retrouver donc pour le transmettre, mais plus encore, comme l'explique le philosophe anglais John Locke, c'est même la mémoire qui est la condition de mon identité personnelle à travers le temps. Je suis le même à travers le temps, nous dit Locke, parce que j'ai conscience d'être celui qui se souvient de lui-même. Ce n'est donc pas seulement « je pense, donc je suis », mais plus précisément « je me souviens, donc je suis le même ». Il n'y a pas d'identité sans mémoire. Et pourtant, nous n'avons que très peu de pouvoir sur notre mémoire. On ne décide pas de se souvenir et on ne décide pas d'oublier. Ou plutôt, si je veux retenir un moment ou une connaissance, ou si au contraire je voudrais oublier un moment désagréable, eh bien cette volonté, elle ne garantit pas que l'on se souvienne effectivement ou que l'on oublie effectivement. En fait, notre cerveau n'est pas un ordinateur où l'on peut cliquer sur enregistrer ou sur supprimer.
Alors on ne décide pas de se souvenir, mais on peut tout de même décider d'apprendre.
Oui, et en même temps, apprendre par cœur, eh bien ça ne suffit pas non plus. Encore faut-il être actif. Les expériences de psychologie expérimentale montrent que quand on a justement sur le bout de la langue quelque chose, eh bien dans 95% des cas, on finit par retrouver ce que l'on savait, mais on le retrouve parce qu'on l'a cherché. Savoir, ce n'est donc pas seulement être assis sur une sorte de stock de connaissances emmagasinées, mais c'est une capacité. La capacité d'actualiser, de convoquer, de dire et de se servir de ce que l'on sait. C'est donc les impératifs du présent qui provoquent la mémoire, et il faut donc en fait changer notre conception de la mémoire. Elle ne s'occupe pas que du passé, mais elle est surtout chargée de nous relier au présent.
Commentaire du docteur Eppelbaum sur ces petits oublis de la vie quotidienne, ces petites pertes de mémoire qui peuvent nous effrayer.
Alors, tout à fait, ça arrive à tout le monde, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus en faire trop de cas. En fait, en consultation mémoire, c'est souvent ça qui motive la venue des patients. Et on a, si vous voulez, des outils qui nous permettent de distinguer, on va dire, une vraie maladie de la mémoire, ou du moins quelque chose d'inquiétant et qui pourrait faire penser à une maladie d'Alzheimer, de maladies de la mémoire qui, elles, sont plus liées à de l'anxiété, voire à d'autres pathologies, par exemple la dépression, des troubles du sommeil, voire le vieillissement cérébral normal, puisqu'on perd tous un petit peu la mémoire en vieillissant.
On y reviendra tout à l'heure, docteur Eppelbaum. La petite philo de la vie quotidienne de Thibault de Saint-Maurice, c'est tous les lundis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess, avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé cette semaine par Claire Destacan.
Comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers, comme si les images s'arrêtaient et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin. La grande roue tournait et que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après pointait l'avant, comme si qui sera était et que la mécanique s'essoufflait. Passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli. comme si nos rêves se n'ont pas, et que le réveil ne sonnait pas. C'est comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil vous détoie, et que les étoiles ne brillaient pas. Le temps passe, on vit vite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite.
Les 10 heures, ça fait du bien à 10h23, qui ont interprété Le temps passe.
France Inter, grand bien vous fasse.
Quels sont les premiers signes de la maladie d'Alzheimer? C'est notre thème ce matin en compagnie du docteur Stéphane Eppelbaum, neurologue, de la psychologue clinicienne Judith Mollard et du romancier Benoît Duteurtre, et avec la complicité d'Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Vous appelez de Lyon.
C'est ça.
Et vous avez 65 ans, je me permets de donner votre âge, et l'une de vos sœurs est décédée de la maladie d'Alzheimer.
Exactement. Ma sœur est décédée à l'âge de 57 ans, au bout de 2 ans de maladie, donc ça a été plié, entre guillemets, en très peu de temps. Et nous avons dans notre famille des antécédents. 2 frères de ma mère sont décédés de la même maladie, mais beaucoup plus tard. Et il reste pour nous, en fait, après le deuil, depuis 3 ans, en fait, cette question de savoir ce qui va nous arriver, en fait. Donc, quand on oublie quelque chose ou qu'on a des difficultés à...
Des petits oublis de la vie quotidienne, c'est ça,
Oui, c'est ça, voilà, exact. Parce que chez ma sœur, ça a commencé avec des trucs tout bêtes, où elle achetait 3 fois dans la même semaine les mêmes courses. Par exemple, mon beau-frère me disait, on a des placards remplis de choses, parce qu'elle ne se souvient plus qu'elle a déjà acheté la même chose, quoi. Par exemple.
Docteur Eppelbaum, à partir de quel moment les perturbations de la mémoire doivent alerter?
Alors, je pourrais répondre à l'auditrice que l'on vient d'écouter de la façon suivante. Déjà, si on fait abstraction de l'histoire de la sœur, avoir des troubles de la mémoire vers 65 ans, encore une fois, c'est quelque chose d'anodin. Et le fait de les remarquer soi-même, c'est déjà quelque chose d'assez rassurant. C'est-à-dire, nous, ce dont on s'est aperçu, c'est que c'est surtout lorsque l'entourage signale des troubles de la mémoire chez quelqu'un de proche qu'il faut que l'on soit particulièrement vigilant. Et à ce moment-là, qu'on propose des tests, par exemple des tests de mémoire, qui permettent de distinguer des troubles de la mémoire du vieillissement classique de troubles de la mémoire plutôt dans le cadre de la maladie d'Alzheimer.
À quoi ressemble le test spécifique concernant la maladie d'Alzheimer?
D'accord. Un des tests que l'on utilise volontiers parce qu'on a montré son efficacité à plusieurs reprises dans différentes conditions, c'est un test qui s'appelle le rappel libre, rappel indicé 16 items, où il faut apprendre une liste de 16 mots avec à chaque mot un indice d'une catégorie particulière. Par exemple, le mot hareng, qui est un poisson. Donc on fait apprendre à la fois le mot et l'indice qui permettra de faciliter d'une part son encodage, son enregistrement véritable dans le système de mémoire, et d'autre part sa récupération. Ça rejoint un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure sur le phénomène du mot sur le bout de la langue. Lorsque l'on donne un indice, eh bien ça facilite la récupération. Et du coup, on sait que dans le vieillissement normal, c'est surtout la récupération spontanée qui est altérée. Mais lorsque l'on donne un indice, normalement, ça la permet de récupérer le mot. Et dans la maladie d'Alzheimer, malgré cet indice, on ne récupérera pas le mot.
Johanna, vous aviez remarqué des traits liés à la maladie d'Alzheimer, des choses qui vous avaient alerté?
Ce sont surtout ses fils qui ont dit « Mais maman, rappelle-toi » ou bien voilà quoi. C'est eux qui ont dit « Mais tu es bizarre ». Et moi, donc, elle m'a raconté ça au téléphone parce que je suis donc très loin d'elle. Et mais moi, je lui disais, mais moi, au téléphone, je n'avais pas remarqué. Parce que forcément, je ne la voyais pas fonctionner au quotidien tous les jours. Et quand je montais la voir chez elle, on n'était peut-être pas dans le contexte où j'aurais pu vraiment remarquer ça. Ce sont ses fils qui ont tiré la sonnette d'alarme. Et au bout de quelques mois, donc, ils l'ont amené, son mari l'a amené voir le médecin généraliste, qui l'a envoyé chez le neurologue, et puis son essence, ainsi de suite, en fait. Mais c'était certainement une forme de maladie très particulière pour qu'en 2 ans de temps, ça se soit aggravé à ce point.
Judith Mollard, le rôle de l'entourage est très important. C'est l'entourage qui se rend compte que quelque chose ne va pas.
Oui, c'est souvent ces situations-là qui arrivent, et surtout les membres de la famille qui vivent au quotidien avec la personne malade, ce que décrit l'auditrice, c'est-à-dire que quand on est plus à distance, eh bien, on va moins percevoir ces changements d'attitude, de comportement, alors que quand on est 24 heures sur 24 avec la personne, bien évidemment, il y a des choses qui vont apparaître, et parfois, d'ailleurs, c'est assez douloureux pour cet aidant principal qui n'est pas cru par le reste de la famille, qui a l'impression que le conjoint, par exemple, voit des choses qui finalement n'existent pas. Et c'est souvent des dissensions difficiles au sein des familles.
Benoît Duteur.
En l'occurrence, c'est mon père qui était auprès de ma mère au jour le jour et qui effectivement s'est sans doute rendu compte des choses plus vite que les autres. Il n'y a pas eu, je crois, de déni dans l'ensemble de la famille. Mais ce qui m'a frappé aussi beaucoup dans cette expérience, c'est que c'est un peu bête à dire, mais il y a quelque chose d'un petit peu d'une folie douce, un petit peu joyeuse au début de cette maladie d'Alzheimer, dans ces troubles de mémoire, même si on sait que c'est très inquiétant. Voilà, c'est des dérèglements de la vie quotidienne qui font que moi j'avais au fond l'impression que peut-être c'était pas si grave, que tout ça finirait voilà dans une espèce de flou, de folie douce qui rendrait ce déclin moins tragique. Or en réalité, ça c'est vraiment le début de la maladie. Et puis au bout de quelques temps, ça tourne au contraire vers une espèce d'enfermement sur soi, dans des obsessions, dans des formes d'agressivité qui arrivent après. Donc malheureusement, le début de la maladie dont on parle aujourd'hui, je dirais, c'est la phase la moins angoissante, parce que c'est quelque chose qui au jour le jour est finalement relativement supportable par l'entourage.
Judith Mollard.
Oui, alors c'est tout dépend aussi comment la personne malade vit ses difficultés. Visiblement, votre maman, intégrait ça dans quelque chose qui faisait partie de ses traits de caractère.
Voilà, elle mettait ça sur le compte de sa fantaisie.
Donc à partir du moment où elle intègre ça dans quelque chose qui lui convient, pour l'entourage, c'est plus facile. Ensuite, c'est vrai que les symptômes évoluant, entraînant une perte d'autonomie de plus en plus importante, c'est sûr que pour la personne et pour son entourage, les choses se complexifient. Il y a souvent de l'anxiété, de l'angoisse.
Énorme angoisse. Moi, c'est ça qui m'a le plus frappé. Cet enfermement ténébreux sur elle-même au bout d'un moment, qui là, pour le coup, était le contraire de sa personnalité.
Ouais.
Merci beaucoup, Johanna, de nous avoir appelé de Lyon. Bonjour, Sophie.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Vous appelez d'où? Je n'ai aucune indication sur votre appel.
Alors, j'appelle Danonnet en Ardèche.
Bon, dites-nous tout, chère Sophie.
Alors, voilà, moi, j'ai mes deux grands-mères, donc, qu'ils soient maternelles ou paternelles, qui sont justement atteintes de l'Alzheimer. Et mes questions étaient assez simples. C'était, premièrement, est-ce que c'est héréditaire? Deuxièmement, y a-t-il des moyens de prévision? Et ma dernière et troisième question, c'est si mes parents ont des symptômes, que puis-je faire pour mieux les aider au mieux, tout simplement?
Docteur Eppelbaum.
Alors, je peux répondre déjà aux deux premières questions. La première, c'est est-ce que c'est héréditaire? Dans 99% des cas, la maladie, elle est hautement multifactorielle, et en tout cas on peut pas dire qu'elle est héréditaire au sens où si votre grand-mère là, vous allez l'avoir automatiquement. Certainement pas. Dans 1% des cas, il peut y avoir des formes vraiment génétiques avec une mutation qui va se transmettre avec un risque d'une probabilité sur deux à toute personne, à tout descendant. Et donc c'est dans ces formes-là que la maladie se développe précocement avant 60 ans. Et on peut, à ce moment-là, proposer d'éventuelles recherches génétiques. Mais dans les 99 autres pourcents, non. Il peut y avoir des prédispositions génétiques, c'est-à-dire un petit surcroît de risque, mais sans que pour autant ce soit une maladie totalement héréditaire.
Et qui sont aggravés par les facteurs environnementaux.
Tout à fait. Il y a des facteurs génétiques, mais également de très nombreux facteurs environnementaux. Ensuite, sur les moyens de prévention, là, c'est la bonne nouvelle. Ces moyens de prévention existent. Et on parlait tout à l'heure du sport. Le sport, l'activité physique est un moyen de prévention, mais il y a également de très nombreux moyens, notamment en termes de d'éducation, de fonctionnement de son cerveau tout au long de sa vie. Alors j'insiste sur l'aspect tout au long de sa vie parce qu'un moyen de prévention, par définition, peut pas être mis en place alors que la maladie est déjà installée, ou du moins ça ralentira peut-être les symptômes, mais ça ne permettra pas de la guérir.
Benoît Duteur.
Sans vouloir du tout évidemment contester ce qui vient d'être dit et ce qui sera dit, je crois, tout à l'heure dans la chronique de Santé Magazine, j'en tiens mon exemple personnel. Ma mère était une femme extrêmement active physiquement, qui marchait beaucoup, qui aimait la montagne, etc., qui se baignait, enfin qui avait une vie physique très active et une vie intellectuelle également très active, parce que j'entends souvent dire ah oui, voilà, il faut que les gens entretiennent leur cerveau, etc. Elle a eu cette maladie qui s'est déclenchée jeune, relativement jeune, à l'âge de 72 ans, qui a évolué rapidement, alors même que toute sa vie elle avait une grande activité intellectuelle et que même au début de sa maladie, comme je le disais tout à l'heure, sans doute sentant un peu ce qui lui arrivait, elle faisait l'effort d'écrire, de noter les choses pour s'en souvenir, etc. Voilà. Donc, bien sûr, c'est sûrement vrai statistiquement ce que vous dites, mais c'est pas vrai visiblement dans tous les cas.
Voilà, c'est effectivement ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire malheureusement, une personne qui a jamais fumé de sa vie peut quand même déclarer un cancer du poumon, et ça sera un vrai drame. Il y a certainement des facteurs qui sont plus méconnus, mais en tout cas, ces facteurs-là.
J'ai vu d'autres cas semblables quand même de femmes très actives,
probablement
qui, tout d'un coup,
parce que vous circulez dans des sphères de gens très actifs et très intellectuellement supérieurs.
Vous aviez une troisième question, il me semble.
Oui, c'était si mes parents, justement, avaient des symptômes, que puis-je faire, en fait, pour les aider au cas où ?
Judith Mollard.
Alors, je crois qu'il faut absolument pouvoir les encourager, si ces symptômes s'inscrivent dans le temps, à engager une démarche diagnostique, même si en effet les traitements médicamenteux aujourd'hui sont pauvres et ne permettent en aucun cas de ralentir l'évolution de la maladie, mais ça permet de mettre en place un parcours d'accompagnement, un parcours de soins, et pour la personne qui s'avérerait malade, et pour son entourage. Des dispositifs, les séances d'orthophonie, il y a maintenant des équipes spécialisées à Alzheimer qui se déplacent au domicile pour évaluer l'environnement, pour évaluer les capacités préservées de la personne et mettre en place des séances de réhabilitation. Enfin, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui ce qui peut être proposé et à la personne malade et à son entourage.
Merci beaucoup Sophie de nous avoir appelé de l'Ardèche. Alors, docteur Eppelbaum, j'aimerais qu'on revienne sur les autres signes qui peuvent être précurseurs de la maladie d'Alzheimer. Je pense par exemple à la désorientation dans l'espace et le temps.
Bien sûr, donc c'est un grand classique de cette maladie. Ça fait écho aux troubles de la mémoire. C'est sûr que si on ne sait plus se souvenir de son quartier, de la façon dont son quartier est organisé, on ne pourra plus s'y orienter. De la même façon, pour se souvenir du jour que l'on est, il faut avoir regardé sur un éphéméride et puis s'en souvenir au cours de la journée. Donc tout ça, ça participe à la désorientation temporo-spatiale. Il y a également les troubles du langage, avec ce que l'on appelle à la fois des difficultés lexicales pour retrouver la forme d'un mot, à savoir que constitution, par exemple, s'écrit la façon dont ça s'écrit, et puis des difficultés sémantiques, par exemple, ne plus retrouver un mot dans une catégorie, se souvenir que un rhinocéros,
c'est un mammifère,
c'est un animal, mais plus trop savoir où est-ce qu'il habite, par exemple.
On parle beaucoup de changement de personnalité, de changement d'humeur et de comportement, Judith Allard.
Oui, c'est une maladie.
Mollard, pardon. Mais ça commence.
attention. Oui, c'est une maladie qui très tôt a une incidence sur la communication et la qualité aussi de la relation avec ses proches. On peut avoir une forme de désinhibition aussi qui fait que on exprime beaucoup plus naturellement sa colère, son irritabilité ou au contraire sa joie. Donc, ce qui modifie quand même considérablement la relation qu'on avait jusqu'alors et qui peut, si on ne comprend pas bien cette expression symptomatique, qui peut entraîner des conflits, des heurts, d'où la nécessité d'ailleurs de pouvoir former les aidants familiaux, de pouvoir leur offrir des temps de compréhension de la maladie et de ses expressions pour pouvoir s'adapter et ne pas considérer que la personne le fait exprès, nous en veut, finalement est devenue agressive. Non, je crois qu'il faut vraiment comprendre et intégrer ça dans l'évolution de la maladie pour éviter des relations difficiles qui se heurtent. Et donc, France Alzheimer a formé depuis 6 ans plus de 30 000 aidants familiaux sur toute la France. Une formation que je rappelle est gratuite, financée en partie par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Benoît Duteur.
Vous parliez des changements de comportement et des excès. Je me rappelle, par exemple, un anniversaire de famille encore, où ma mère, à la fin de la soirée, s'était mise à danser avec les jeunes, comme ça, mais elle dansait d'une façon un peu démente, comme ça, extrême, ce qui n'était pas du tout dans son tempérament bourgeois, quand même un peu contrôlé, si vous voulez. Et c'était à la fois effrayant et un petit peu drôle en même temps, parce qu'il y a toujours, malgré tout, cette drôlerie que vous signaliez tout à l'heure, la personne qui va trois fois par jour chez le même commerçant faire les mêmes cours. C'est le commerçant qui s'arrange avec la famille pour garder les choses de côté. Mais et puis aussi, sur ce que vous disiez, la difficulté alors concernant les aides auxquelles on peut recourir, dans le cas de ma mère, je parle plutôt dans la période où elle était encore quand même une vie à plus ou moins normale, mais mon père a essayé de se faire aider parce que c'était difficile. Et le problème, c'est que ma mère refusait des aides extérieures parce que elle sentait que c'était une espèce de prise en charge louche de son mode de vie qui correspondait à des angoisses qu'on avait. Et il y avait un rejet de sa part de toute personne qui serait venue aider mon père à la maison à supporter cette chose qui était extrêmement lourde.
Docteur Eppelbaum, l'apathie, une perte d'intérêt pour ses proches, pour ses activités préférées, ça doit alerter?
Tout à fait, c'est aussi un symptôme très fréquent de la maladie d'Alzheimer et également de maladies apparentées, puisqu'il y a aussi d'autres pathologies qui ressemblent beaucoup à la maladie d'Alzheimer, dans lesquelles l'apathie peut être encore plus importante. L'apathie, c'est ce symptôme qui correspond à un manque de motivation, au fait que la personne va rester assise dans son fauteuil tout au long de la journée, va désinvestir des activités qu'elle faisait auparavant. Et c'est un symptôme qui est très difficile pour les proches, pour la famille, et sur lequel on a beaucoup de mal à agir.
Allez, nous attendons toutes vos questions et témoignages sur les premiers signes de la maladie d'Alzheimer par courriel, grand bien vous fasse, à radiofrance.com et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Juste après le disque, nous reviendrons sur les facteurs de risque qui favorisent la survenue de la maladie d'Alzheimer. les Rolling Stones, Miss You en 1978.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h42, quels sont les premiers signes de la maladie d'Alzheimer? C'est notre thème ce matin avec le neurologue Stéphane Eppelbaum, de la psychologue clinicienne Judith Mollard et avec le romancier Benoît Dutertre qui évoque la maladie de sa mère dans son avant-dernier livre, Livre pour adultes. Docteur Stéphane Eppelbaum, la maladie d'Alzheimer avance de façon masquée 10 à 20 ans avant les premiers symptômes visibles, c'est ça? Et de quelle façon peut-on identifier les premiers signes de la maladie encore invisibles pour le patient?
C'est tout à fait vrai. La maladie d'Alzheimer est une maladie très lentement évolutive et finalement, quand les symptômes sont là, c'est la partie émergée d'un iceberg. Alors, toute la partie immergée, c'est l'enchaînement des événements biologiques qui surviennent à l'intérieur du cerveau et que l'on peut maintenant mettre en évidence in vivo grâce à de nouveaux marqueurs de la maladie, à la fois grâce à l'analyse du liquide céphalo-rachidien que l'on peut acquérir par ponction lombaire, ou également grâce à des traceurs en médecine moléculaire ou en médecine nucléaire, et c'est ce qu'on appelle le PET scan ou la tomographie par émission de positrons. Et donc, grâce à ces marqueurs, on peut identifier chez quelqu'un qui va plutôt bien, hein, comme vous et moi, enfin j'espère, des lésions qui, à terme, pourront évoluer vers une maladie clinique. Et ça permet, ça ouvre des voies en tout cas vers des techniques de prévention.
Est-ce que vous êtes favorable à des tests préventifs?
J'y suis favorable pour une raison qui est assez simple, qui est que jusqu'à présent, si vous voulez, toutes les études thérapeutiques, à visée thérapeutique, menées dans cette maladie, depuis une vingtaine d'années en tout cas, toutes ces études reviennent négatives lorsqu'elles sont menées à un stade déjà clinique de la maladie. Donc je suis favorable à, entre guillemets, un dépistage, mais uniquement dans un cadre de recherche, bien entendu, hein, pas de clinique, et pour voir s'il est possible d'enrayer cette maladie grâce à des approches thérapeutiques particulières, en s'y prenant très précocement.
Bonjour Jean-Louis, vous appelez de Carcassonne, dans le département de l'Aude.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous appelais à propos de... Excusez-moi, je suis un peu ému.
Non, allez-y, allez-y. Prenez votre temps, Jean-Louis.
De ma femme qui a, elle, une maladie à corps de Lévy. C'est-à-dire que c'est, en gros, Parkinson et Alzheimer. Donc, elle a 60 ans, elle a contracté ça, enfin, déclaré... les médecins ont pronostiqué la maladie il y a 4 ans, il y a 6 ans. On lui avait dit que c'était un Parkinson. Et voilà, donc maintenant, elle s'alterne entre une petite fille de 3 ans et une personne âgée. C'est-à-dire qu'elle se déplace plus, elle marche plus, elle ne peut plus, elle se lasse plus, elle ne mange plus toute seule. Et elle est totalement dans son monde.
Elle n'a plus envie de grand-chose, c'est ça?
C'est même... Je peux même pas dire qu'elle a envie de quelque chose, parce qu'elle est... Elle n'est plus là du tout. Elle est dans elle est dans son monde. C'est-à-dire que, voilà, elle est ailleurs. Et des envies, elle en manifeste très peu, quasiment plus du tout. Elle manifeste rien. Donc, il faut la solliciter en permanence pour savoir s'il y a la faim, s'il y a la soif, si elle veut se promener. Donc, elle dit oui à tout, ce qui est déjà bien. Elle a plutôt un côté gay, rigolote. Donc elle invente plein de mots qui n'existent pas, qui sont très jolis parfois. Voilà, mais c'est très difficile parce qu'elle est jeune et que la maladie a évolué et continue à évoluer très très vite.
Jean-Louis, comment s'est passée l'annonce du diagnostic?
Voilà. L'annonce du diagnostic. Donc au départ, donc il y a un peu plus de 6 ans, on lui avait dit qu'elle avait un Parkinson et moi j'ai resté avec elle à la maison, j'avais arrêté mon travail donc pendant une année et j'avais débat de dire au neurologue que c'était pas possible, que c'était pas un Parkinson, qu'il y avait autre chose, que c'était donc au bout d'un moment ils m'ont écouté, on a fait des tests, des hospitalisations pour tester, et puis au bout de 2 semaines, on nous a dit bien, et bien, c'est pas Parkinson, c'est maladie à corps de Lévy, merci, au revoir. Donc elle a pas trop réalisé. Déjà, elle avait déjà quand même pas mal d'absences. Donc, on a essayé de minimiser. Donc, voilà. Et plus le temps passait, et moins elle se souvenait, évidemment, qu'elle avait cette maladie.
Docteur Eppelbaum.
Oui, c'est tragique ce que vous décrivez, mais c'est malheureusement un cas qui n'est pas isolé. La maladie de Cordelewy est une maladie qui est souvent un peu plus agressive même que la maladie d'Alzheimer, disons statistiquement parlant. Et il existe un traitement, mais qui, comme dans la maladie d'Alzheimer, est assez peu satisfaisant dans la mesure où il fait simplement office de retardateur des symptômes. Et là encore, ça retarde assez faiblement, ou du moins, c'est l'effet qu'on en a, puisqu'on a toujours l'impression que ça va beaucoup trop vite. Là encore, il y a de la recherche qui est en cours, mais ça avance assez doucement.
Judith Mollard.
Oui, une maladie à Cordelewy qui, en effet, hein, en clinique, semble d'évolution peut-être plus rapide avec l'association de troubles cognitifs et de troubles moteurs. Et ce que décrit cet auditeur, c'est avec cette évolution de la maladie, comment garder un lien, comment continuer à communiquer hein, quand les mots ne sont plus vecteurs d'informations, de messages. Donc, il y a la communication non-verbale hein, qui... Mais ça demande, en effet, pour l'entourage...
Le toucher aussi.
Oui, le toucher, bien sûr. Tout ce qui est sensorialité, en fait, hein. On va pouvoir proposer des outils de communication un peu différents. Mais ça veut dire, pour le conjoint notamment, renoncer à une relation avec une épouse hein, qui n'est plus ce qu'elle était, de devoir s'adapter, de devoir comprendre, analyser. Enfin, on voit bien quel engagement cela demande dans le temps, mais aussi un engagement psychique hein, de la part des aidants familiaux.
Merci beaucoup, Jean-Louis, de nous avoir appelé de Carcassonne et nous vous souhaitons beaucoup de courage. Alors, docteur Stéphane Eppelbaum, nous avons reçu de nombreux messages sur les facteurs qui favoriseraient la survenue de la maladie. Alors, selon une équipe dirigée par le professeur Wei Chu, neurologue au Centre de la mémoire de l'Université de Californie à San Francisco, voici quelques facteurs de risque. L'obésité, le tabagisme actif, la dépression, un faible niveau d'éducation, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle. Alors, cette étude hein, du professeur Wei Chu se fonde sur une méta-analyse basée sur 16 901 articles scientifique.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec les résultats de cette méta-analyse.
Alors l'obésité
en particulier, donc on voit qu'il y a de nombreux facteurs de risque vasculaire également. Hein, obésité, hypertension artérielle, le diabète. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même de plus en plus de traitements de ces maladies. Et d'ailleurs, je reviens sur les aspects préventifs. On voit aujourd'hui que l'incidence de la maladie d'Alzheimer est moins élevée que ce à quoi on se serait attendu par rapport à il y a 10 ans. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que des prises en charge de santé publique qui ont été menées pour la tension artérielle, pour lutter contre l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, il y a de ça une trentaine d'années, voient leurs effets positifs sur des maladies comme la maladie d'Alzheimer arriver aujourd'hui, 30 ans après. Et donc, il faut maintenir ces efforts. En quoi est-ce que ça joue? Eh bien, probablement qu'il y a une moins bonne irrigation cérébrale. Hein. L'aspect vasculaire cérébral est fortement intriqué avec les dépôts des lésions dont je vous parlais tout à l'heure, les lésions amyloïdes et les lésions tau. Et donc, sans doute que en jouant sur ces facteurs-là, on arrive à diminuer cet aspect de la maladie.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, l'activité physique a-t-elle un impact pour freiner l'apparition des premiers signes de la maladie d'Alzheimer ?
Ben oui, comme on vient de le voir, peut-être que c'est quelque chose de très important pour prévenir la maladie d'Alzheimer et retarder, en tout cas, c'est l'apparition de ces symptômes.
Qu'est-ce qu'on sait ?
Mais pourquoi ? Parce que déjà, ce qu'on sait sur l'activité physique, outre le fait que ça permet de développer les réseaux de vaisseaux sanguins présents dans le cerveau, donc de contribuer à ce que le cerveau soit mieux nourri. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'on sait que des études récentes ont montré que l'exercice physique favorise également la neurogénèse, la formation de nouveaux neurones dans le cerveau, en particulier dans l'hippocampe, région de cerveau, on le sait, essentielle pour la mémoire et l'apprentissage. Mais je crois qu'il enfin, les recherches vont vers un ensemble de facteurs de prévention. Il y a l'exercice physique, mais il y a aussi l'alimentation, il y a aussi le sommeil qui est très important, un sommeil de qualité, et puis le fait de ne pas fumer, le fait aussi de bien gérer son stress. Donc, il y a de plus en plus d'études qui essaient d'établir un programme préventif, d'un mode de vie plus sain qui permettrait de retarder la maladie.
Docteur Stéphane Eppelbaum, quel est l'impact de la nutrition pour prévenir l'apparition des premiers signes de la maladie d'Alzheimer?
C'est une question qui est difficile parce que c'est très ardu d'étudier l'alimentation d'une personne tout au long de sa vie. Donc il y a beaucoup d'études, on va dire, observationnelles qui recherchent par exemple si les personnes mangent plus ou moins d'oméga 3 dans la journée, d'huile
présent
de coco, etc.
Présent dans les poissons gras, par exemple.
Présent dans les poissons gras. À ce jour, on peut pas dire qu'il y a un aliment magique qui sort comme extrêmement.
Non, mais il y a un type d'alimentation quand même méditerranéenne. Bien sûr, oui, au niveau vasculaire, on voit que.
En fait, c'est presque du bon sens. Ça dépasse même la médecine. C'est-à-dire avoir une vie saine sportive où on lit beaucoup, c'est meilleur que de pas bouger, de rester chez soi et de rien manger. Ça, c'est...
Alors, selon une étude dirigée par le professeur Bernard Bégaud, chercheur à l'Inserm, l'utilisation à long terme de somnifères et de tranquillisants à base de benzodiazépines augmenterait de façon significative le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est vrai?
Là encore, c'est un point qui semble réel, puisqu'il y a de nombreuses études. C'est une étude parmi plusieurs qui montre ce point-là. La consommation chronique de benzodiazépines pourrait augmenter, pas énormément, mais peut-être de 15-20% le risque de développer une maladie d'Alzheimer, sachant que les benzodiazépines sont des médicaments qui ne sont pas recommandés en prise chronique. C'est-à-dire c'est des médicaments, des anxiolytiques, des calmants, qui doivent être normalement pris en cas de crise d'angoisse, mais pas au long cours.
Il est possible, Judith Mollard, de repousser l'apparition de la maladie dès l'âge de 30-40 ans?
Repousser.
Disons d'être préventif dès l'âge de 30, de la.
Oui, je crois que, 30-40. Comme on vient de le dire, en effet, toutes ces pistes sont intéressantes pour éviter, mais ce que peut-être juste rajouter que même quand la maladie s'exprime, qu'elle a été diagnostiquée, je crois qu'il faut pouvoir aussi se dire que elle est d'évolution lente et qu'il y a de nombreuses années où on peut vivre avec et où justement le danger c'est de ne pas s'isoler après l'annonce du diagnostic. Il y a un effet de sidération. Voilà, il y a souvent un effet de sidération, surtout chez les couples âgés qui vont se refermer sur eux-mêmes, s'isoler et qui du coup il va y avoir une évolution beaucoup plus rapide des symptômes. Il faut continuer. Nous, on développe des programmes dans les musées, on organise des séjours vacances. Enfin, voilà, le vivre avec, c'est aussi important de pouvoir en parler.
Docteur Eppelbaum,
je suis entièrement
sur
d'accord.
Sur la prévention à partir de 30-40 ans.
Oui, sur la prévention, moi, je serais même plus sévère que vous. Je dirais que ça commence dès la naissance, en fait. Peut-être pas in utero, mais je pense que dès la petite enfance, les pouvoirs publics et les parents, enfin tout le monde a une responsabilité dans l'éducation, à la fois sur le fait d'apprendre à lire, d'apprendre à bien s'alimenter, à faire de l'exercice physique. Et ça, c'est tout au long de la vie.
Vous voulez encore un peu de...
Ah oui, moi je reprendrai un petit peu de vin.
Oui, Fiona, moi aussi, avec plaisir.
C'est drôle. La moitié du temps, je suis là à hésiter, à chercher quelque chose que je sais être très pertinent. Et je n'arrive plus à me rappeler ce que c'était. Une fois que l'idée est partie, il n'y a plus rien. Je reste figée à essayer de me souvenir ce qui était si important l'instant d'avant. Il est possible que je sois en train de disparaître.
Un extrait du film Loin d'elle avec Julie Christie en 2006. Benoît Dutertre, dans votre livre pour adultes, publié chez Gallimard, livre pour adultes, c'est le titre de l'ouvrage, vous évoquez de belles pages sur la maladie qui a frappé votre mère, je le rappelle, petite fille du président René Coty.
Oui, ce qui d'ailleurs n'a on pas changé grand-chose à la maladie, mais on peut le préciser. Effectivement, mais c'était oui parce que c'est un livre sur les choses qui disparaissent, le monde qui change à travers l'histoire de ma mère. Vous vouliez que je vous en lise quelques lignes.
Quelques lignes, oui.
Les premiers temps, nous avons traversé avec mes frères et sœurs une période encore légère où elle faisait n'importe quoi et s'amusait de tout. Ses rires, ses confusions libéraient une fantaisie jusqu'alors très contrôlée. Oubliant son côté femme de devoir, elle devenait plus insouciante et inattendue. Parfois, elle se levait en pleine nuit pour préparer le petit déjeuner et chantonnait en versant de la moutarde dans le filtre à café. Lorsqu'elle épluchait une salade, elle jetait dans la poubelle chaque feuille qu'elle venait de laver d'un même geste méthodique. Et puis, tout s'est dégradé rapidement, une profonde vague d'angoisse a balayé l'euphorie. Elle ne tenait plus en place et suivait mon père partout, jusqu'à la porte des toilettes, où elle tambourinait pour qu'il sorte, épuisée, dépassée. Celui-là déposait parfois l'après-midi chez ma tante, avec qui elle jouait au Scrabble, en alignant des mots extravagants. Si elle avait pu s'imaginer dans un tel état, elle aurait certainement préféré mourir, mais la maladie l'avait rattrapée. Ma mère ne contrôlait plus rien et semblait désormais soumise à cette angoisse primitive qui la poussait à déambuler sans cesse.
Extrait de votre ouvrage « Livre pour adultes ». Merci beaucoup, docteur Stéphane Eppelbaum. Merci beaucoup, Judith Mollard. Merci. Le site de France Alzheimer est une véritable mine d'informations et de prévention. Merci également, Benoît Dutertre. « Livre pour adultes » est toujours disponible chez Gallimard. Et votre prochain livre s'appelle comment ?
« Pourquoi je préfère rester chez moi ».
Et ce sont des chroniques. Demain, on se demande comment se reconstruire après une infidélité en compagnie du psychiatre Christophe Fauré. Vous pouvez d'ores et déjà témoigner par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com. À la technique ce matin, Loïc Frapsos et Élise Christophe.